C'est bon.
Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Seigneur, nous te rendons grâce parce que cette parole, elle nous nourrit encore aujourd'hui. 2000 ans après son écriture, elle nous nourrit. Elle nous parle. Seigneur, aujourd'hui, encourage-nous par ta parole. Encourage-nous. Amen. C'est toujours un souci pour moi de trouver un texte sur lequel prêcher. Je ne sais jamais sur quel texte prêcher. Et ce texte est vraiment venu à cœur. Et c'est plus qu'un texte, c'est la vie d'Abraham. Alors nous allons lire plusieurs parties de la Genèse. Je vous épargne toute la lecture de Genèse, même si l'envie ne me manque pas. Nous allons lire tout d'abord en Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu fait une promesse à Abraham. Il lui promet de faire de lui une grande nation. Abraham n'a pas d'enfant. Il va sûrement, suite à la promesse de Dieu, essayer d'avoir des enfants. Mais voilà, les années passent et Abraham n'a toujours pas d'enfant. Peut-être a-t-il du mal à comprendre comment Dieu va tenir sa promesse. Alors il commence à réfléchir, il me semble, comment cette promesse va se réaliser. Finalement, il pense comprendre et il dit à Dieu, « Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Abraham aime Dieu. Ça, on ne peut pas le remettre en cause. Abraham aime Dieu et il vit des expériences extraordinaires avec Dieu. Dieu le protège, par exemple, de Pharaon. Abraham a confiance en Dieu et il a envie que la promesse de Dieu s'accomplisse. Il n'a pas d'héritier. Mais à son époque, il était possible de transmettre son héritage à un serviteur. Et en soi, il n'y avait rien de grave à cela. Face à cette réaction, Dieu ne se met pas en colère. Il n'est pas en colère contre Abraham parce qu'il a mal compris sa promesse. Mais il lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Le Seigneur prend soin d'Abraham. Il lui redonne du courage dans cette promesse qu'il lui a donnée. Quant à Abraham, il écoute la voix du Seigneur et il continue à saisir cette promesse. Et il va de nouveau réessayer d'avoir un enfant avec son épouse. Mais le temps passa. Et Genèse 16 nous dit, chapitre 16, verset 1, Sarai, oh moi je dis Sarah, excusez-moi, c'est comme, je ne dis pas Abraham, mais on se comprend. Donc, Sarah dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile, aide des relations avec ma servante, peut-être aurai-je pour elle des enfants. Abraham écouta Sarah. Abraham aime Dieu. Et il avait vraiment saisi cette promesse que Dieu lui avait donnée. Mais avec le temps qui passe, et ne voyant pas sa femme accoucher d'un enfant, je suppose qu'ils vont de nouveau se poser des questions et ils vont chercher une solution pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et n'oublions pas qu'entre l'annonce de la promesse et la conception d'Ismaël, 11 ans se sont passés. 11 ans. C'est long, 11 ans. Je pense qu'il serait vraiment injuste de dire qu'Abraham était impatient. Si je vous donne une promesse, je dis à Daniel, qui est devant moi, je te promets, je tendrai ta pelouse, et puis que c'est 11 ans après que je lui tende sa pelouse. Pour dire qu'elle a été patiente quand même. 11 ans se sont écoulés. 11 ans. ne sais pas vous, mais je prie souvent pour que le Seigneur me dise sa volonté pour moi. Et face à tout ce que je reçois, j'essaye d'interpréter ce qu'il veut que je fasse. Et ce n'est pas toujours facile à discerner ce qui vient de moi et ce qui vient de Dieu. Sarah dit à Abraham, voilà, aie un enfant avec ma servante. Peut-être, hein, peut-être qu'il ne nous dit pas, mais peut-être qu'il s'est dit ben, que Dieu parlait à travers son épouse. Pourquoi pas lier, il ne vient pas de lui après tout. C'est son épouse qui lui dit. Et il le fait. Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu. Et en 11 ans, il est certain qu'il a eu à plusieurs reprises essayé d'avoir un enfant avec son épouse. Mais voilà, ça ne fonctionnait pas. Il n'a pas eu d'enfant en 11 ans. Du coup, il fait ce que son épouse lui dit. Et alors là, faites attention, je ne dis pas que c'est de la faute à Sarah, on est d'accord. Je dis juste qu'il interprète tout et il a dû se dire, mais voilà, peut-être que la volonté de Dieu, c'était que j'aie un enfant avec ma servante. Et face à cela, Dieu ne va pas reparler à Abraham tout de suite, il ne va pas reparler au lendemain de la conception, mais il va attendre 13 ans. 13 ans après. 13 ans après la conception de l'enfant, Dieu reparle à Abraham. Et quand je dis 13 ans, je m'appuie vraiment sur la Bible, hein. Abraham avait 86 ans à la naissance d'Ismaël, et quand Dieu lui a reparlé, la Bible nous dit qu'il avait 99 ans. Genèse 16, hein, vous pouvez retrouver les informations. Dieu lui redit qu'un enfant va naître de l'union entre lui et son épouse. Mais Abraham tomba le visage contre terre et il rit. Et dit dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle naître un enfant au monde? Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Dieu dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Je le bénirai, je le ferai proliférer, je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils de Sarah, te donnera à cette époque-ci, de l'année prochaine. Abraham est un être humain comme nous. Il a eu du mal à comprendre le plan de Dieu. Car il est un être limité et Dieu n'a aucune limite dans sa pensée, dans son intelligence. Il dit et les choses arrivent. Aucun homme ne peut faire ça par sa parole créée. Mais Dieu, il le peut. Juste par une parole, il crée. Et d'ailleurs, Genèse 1 nous le rappelle. Dieu aurait pu réaliser sa promesse plus tôt. Il aurait pu la réaliser 6 mois après, la promesse. Mais il a attendu plus de 24 ans avant de réaliser sa promesse. Pourquoi Dieu a-t-il attendu? C'est une question légitime qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu a attendu avant de réaliser la promesse? La Bible ne nous donne pas de réponse exacte. Cependant, nous le savons, Dieu a un plan pour le salut de l'humanité. Et dans son grand plan pour l'humanité, il a aussi un plan pour chacun d'entre nous. Et je dirais que le plan de Dieu pour l'humanité est comme un grand puzzle. Et ce puzzle est constitué de toutes petites pièces qui constituent un plan pour chacun d'entre nous. Et il s'emboîte pour former le plan de Dieu. Il y a des liaisons entre le plan de Dieu pour moi et celui de l'humanité que nous ne pouvons pas toujours comprendre et je dirais que nous ne comprenons pas. Car il est Dieu et nous sommes sa créature. Pour des raisons que j'ignore, il fallait qu'Abraham attende avant la réalisation de la promesse. Mais quoi qu'il arrive, même si le temps est long, quand Dieu donne une promesse, il la réalise. C'est ce qu'on a dit au début du culte. Dieu dit toujours la vérité. S'il nous donne une promesse, elle arrivera. Elle arrivera. C'est certain. Je pense qu'avec Dieu, ce n'est pas qu'une question de patience, mais aussi une question de confiance. Ça rime bien. C'est patience et confiance. Si Dieu nous fait une promesse, il faut la saisir et ne jamais baisser les bras. J'arrive à la partie un peu plus délicate. Je ne veux blesser personne dans toutes les paroles que je vais dire. Je vous aime tous, c'est un grand amour. Et voilà, je dis juste ce que je constate et l'espérance qu'on a en Jésus-Christ. Il est aujourd'hui difficile de concevoir que cette église locale puisse avoir un très bel avenir. Humainement, je parle. Humainement. Premièrement, cette église, en 100 ans, de ce que j'ai entendu, a perdu de sa notoriété. Jadis, elle était une grande église avec beaucoup d'enfants et beaucoup de choses se passaient dans cette église. Quand je discute avec les anciens, ils me disent vraiment de grandes choses qui se passaient dans cette église locale il y a longtemps. On me dit même que les bancs étaient pleins. Je ne sais pas si c'est vrai. On me disait que c'était plein à craquer, qu'il y avait plein d'enfants, que les baptêmes, il y en avait beaucoup, beaucoup de confirmations, etc., etc. Aujourd'hui, nous peinons à être une trentaine, et même une vingtaine tous les dimanches. Je pense aussi au Sarret. Si je ne me trompe pas, c'est le jour de l'Ascension où il y avait une gigantesque fête, les gens venaient en car, etc. Et c'était grandiose et magnifique. Et aujourd'hui, à cause de la crise sanitaire, nous avons peiné à faire un culte au Sarret. Malheureusement, les grandes églises de Clermont-Ferrand ont tendance à attirer les jeunes chrétiens de tiers. C'est aussi un constat que j'ai fait. Les jeunes parents disent ben, il n'y a pas beaucoup d'enfants dans les églises de tiers, je préfère les amener à Clermont-Ferrand. Au moins, ils iront dans un club d'enfants où il y aura beaucoup d'enfants. Et ils délaissent les églises de tiers. D'un point de vue humain, l'avenir est triste. Pourtant, malgré tout cela, nous sommes plusieurs à croire que Dieu a un plan pour l'église de Thiers et Sarret et que Dieu peut la rendre prospère. Qui le croit? On va lever la main pour ceux qui croient que Dieu peut rendre prospère cette église de Thiers. C'est un acte aussi de foi. On est deux à le croire. On est trois, quatre, cinq, six, sept. C'est bien. C'est aussi un acte de foi de saisir. Je sais que dans nos églises réformées, on a du mal à s'exprimer en pleine prédication, c'est pour ça que je dis que ce n'était pas vraiment une prédication, mais saisissons les promesses de Dieu. Il me semble que, contrairement à Abraham, personne n'a entendu la voix de Dieu lui dire l'église des Sarret et de Thiers va devenir très grande. Mais nous sommes plusieurs avoir cette conviction que Dieu va la rendre prospère. Il me semble que plusieurs événements nous poussent dans cette espérance. De ce que j'ai entendu, toujours, si je peux m'appuyer sur ce que j'ai entendu, il me semble qu'avant que j'arrive, vous avez prié pour l'évangélisation d'une façon intense. Pour que Dieu vous aide à faire grandir cette église. Et si je ne me trompe pas, ma venue a été pour plusieurs une réponse à vos prières. Mais l'avons-nous bien interprété? Avons-nous bien interprété cet événement? L'avons-nous interprété d'une façon humaine ou divine? Je m'explique. J'ai déjà entendu parmi vous, mais nous sommes trop vieux. Ça, souvent, j'entends, on est trop vieux pour faire de l'évangile, de l'évangélisation. On est trop vieux pour ci, pour ça. Mais par contre, nous prions ardemment pour toi. J'ai rapidement adhéré à cette réflexion, car d'un point de vue humain, elle est bien construite. Mais est-ce vraiment la volonté de Dieu que ce soit moi qui sois sur le terrain et que les autres prient pour moi? Est-ce comme ça que Dieu voit son plan pour l'église de Thiers? Excusez-moi, la comparaison avec Abraham est trop facile pour que je ne la fasse pas. Votre âge n'a pas d'importance pour Dieu. Elle n'a aucune importance pour Dieu. Si Dieu veut vous utiliser, il le fera. Il le fera. Et je pense souvent à Micheline, qui a donné un très beau témoignage à l'hôpital avant de mourir. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller et de parler avec les infirmières étaient étonnées de voir comment Micheline était dans la paix, dans la sérénité face à la mort. Et ce témoignage, je suis sûr qu'il n'a pas été vain. Je prie pour qu'on y voit le fruit dans un an, dans deux ans, dans trois ans, j'en sais rien. Mais malgré l'âge de Micheline, elle a rendu un plus beau témoignage que moi. Ma venue est-elle la réponse de vos prières ou est-ce juste le commencement de la réponse de Dieu? La fin ou le commencement? Lors de mon entretien avec la commission des ministères, j'avais espéré que je sois reconnu comme pasteur. Pardon. Voilà, j'avais vraiment envie d'être pasteur et je voulais être pasteur. Et contre toute attente, alors que tout était favorable à ce que je devienne pasteur, ils ont refusé et ont dit qu'il sera évangéliste national. Évangéliste national. Et moi, j'ai vu la main de Dieu qui dit non, on continue dans l'évangélisation dans cette église. Je t'ai placé ici pour l'évangélisation, pour que l'église puisse croître avec eux. Et j'ai dit, ok, je lâche prise. Ce n'est pas ma volonté, mais celle de Dieu avant. Dieu a un plan pour l'église de Thiers et Sarrey. Et comme cette église l'aime et a montré aux yeux de tous qu'elle ne voulait pas faire de compromis avec la parole de Dieu, et là je fais référence à la sortie de l'EPUDF, parce que vous vouliez vraiment être juste par rapport à la parole de Dieu, vous ne vouliez pas qu'elle soit déformée, vous avez pris ce risque de sortir de cette église avec tous les points négatifs que ça engendrait pour être fidèle à Dieu. Et la Bible nous dit, en 1 Pierre 5, « Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'elle vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et quand je lis ce passage, je pense à l'église de Thiers. Et en Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et là aussi, je pense à vous. Jésus, Dieu a commencé son œuvre dans cette église et il la poursuivra. Comment Dieu va faire pour rendre cette église prospère? C'est une question que je me suis posée, que peut-être vous êtes posée. Et la réponse est, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que la promesse d'une église grandissante ne se fera pas sans vous. Elle sera faite avec nous. Alors j'insiste un peu sur l'âge, mais comme je l'entends souvent, c'est pour ça que j'insiste. Donc premièrement, vous n'êtes pas vieux et inutile aux yeux de Dieu, mais vous êtes ses serviteurs et c'est lui qui vous rendra victorieux, comme si vous aviez 20 ans. Dieu a promis à Sarah et à Abraham d'avoir un enfant alors qu'ils étaient trop vieux. Vous pouvez demander à Héloïse et à sage-femme. C'était impossible qu'ils aient des enfants. Pas à 100 ans, c'est pas possible. Il y a un âge pour tout. Et pourtant, Dieu a donné un enfant. L'âge n'est pas une barrière pour Dieu. Il veut vous utiliser, il le fera. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il est important de continuer et à espérer et à travailler pour le royaume de Dieu. Même si le Covid peut quelquefois nous décourager, en tout cas moi il me décourage quelquefois, et bien non, ne baissons pas les yeux, continuons. Continuons dans l'annonce de l'Évangile. Deuxièmement, continuons à laisser Dieu grandir en nous en obéissant à sa parole et en le laissant nous façonner. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Galates. Chapitre 2, verset 20. Tout ce que je vois le jeudi me rend joyeux. Nous nous laissons façonner par la parole de Dieu. C'est beau. Et on voit l'œuvre de Dieu agir dans cette église. C'est par la présence de Dieu qui est en chacun de nous que Dieu fera prospérer cette église. Ce n'est pas par nos œuvres, mais par Christ qui est en nous. Troisièmement, que chacun d'entre nous continue à faire grandir sa communion avec Dieu par la prière. Et Jacques 5, verset 16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Ne négligeons jamais la puissance de la prière et soyons nombreux à prier chez nous et le jeudi soir. Pour finir, et c'est important, Isaac va naître sans qu'Abraham ou Sarah ne fournissent des efforts surhumains. Je pense que ce n'était pas du tout surhumain pour faire un enfant avec l'aide de Dieu. Le plan de Dieu se réalise en son temps et son temps n'est pas le nôtre. Abraham et Sarah ont dû attendre plus de 24 ans avant de voir des prémices des promesses de Dieu. Ils n'ont vu qu'un aperçu. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu la naissance de leur fils et de leur petit-fils. Mais ils n'étaient pas très nombreux. Ils n'ont pas vu toute la gloire d'Israël dans la prospérité avec David. Ils n'ont pas vu non plus Jésus naître. Il n'a vu qu'un tout petit bout de la promesse de Dieu. Mais il a continué à saisir cette promesse. Dieu a un projet pour notre église locale. Mais je pense qu'il ne va pas se réaliser en un claquement de doigts, mais il va le faire en son temps. Et là, je prêche à moi-même aussi, hein, parce que quand on évangélise, on aime bien voir des fruits tout de suite. J'aurais bien aimé déjà voir des personnes nouvelles dans ce temple, venant de l'extérieur, mais c'est en son temps. Et c'est difficile quelquefois, et certains d'entre vous me le redisent à chaque fois, voilà, c'est en son temps que les choses arrivent. Ne soyons pas pressés. Nous devons nous armer de patience et de confiance, et continuer à rester mobilisés dans cette vision de l'évangélisation. Mais sans oublier que moi, je ne suis qu'un outil que Dieu vous a donné pour que sa parole puisse être annoncée dans cette région. Sans vous, je suis inutile. Nous formons ensemble, et ça je l'ai dit à plusieurs reprises, nous formons ensemble le corps du Christ, et chacun d'entre vous a une place dans le projet de Dieu pour cette église. Et pour reprendre cet exemple du Pulse, nous avons un Pulse de l'église locale de Thiers, il est constitué de chacun d'entre vous. Que chacun d'entre nous prenne le temps de prier pour que Dieu lui révèle comment sa pièce va s'emboîter avec les autres. Parce que ça c'est sûr, il a donné des dons spirituels à chacun d'entre nous. C'est impossible de ne pas en avoir. Maintenant il faut savoir, voilà, quel est le projet de Dieu pour moi dans cette église ? La saisir, la partager et la faire ensemble. Abraham s'est laissé guider par Dieu et je pense que ce n'est pas grave qu'il ait fait des erreurs. Car le plus important, c'est qu'il était en marche et qu'il se laissait transformer et façonner par Dieu. Quand Dieu lui disait qu'il se trompait, il ne se bornait pas. Il écoutait, il acceptait d'avoir tort. Il continuait à s'accrocher à la promesse de Dieu. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ne nous lassons pas de faire des projets d'évangélisation. Multiplions nos projets, mais soyons toujours à l'écoute de la parole de Dieu. À l'écoute de Dieu. Et si nous ressentons que tel ou tel projet n'est pas la volonté de Dieu, parlons au conseil, le conseil dans la prière et l'aide de Dieu essaiera de discerner la volonté de Dieu pour son église locale. Et d'ailleurs, là aussi, c'est une grande marque de maturité spirituelle, le conseil passe beaucoup de temps dans l'étude de la parole. Avant de commencer quoi que ce soit, on prend la Bible et on discute de la parole de Dieu. Et ça, c'est une marque de maturité spirituelle. Pour reprendre l'exemple d'Abraham, la promesse est réalisée car elle venait de Dieu. Si notre promesse vient de Dieu, elle se réalisera indépendamment de nous. Et si elle ne vient pas de Dieu, elle ne se réalisera pas. Donc pas besoin de faire d'acharnement. Si elle vient de Dieu, elle se réalisera. Mais une chose est certaine, c'est que ce que Dieu veut pour ses disciples, c'est que nous diffusions sa parole. Ça, c'est une certitude. Chers frères et sœurs, j'espère qu'un jour prochain, nous verrons des prémices du plan de Dieu pour notre Église locale. Mais son plein accomplissement, nous ne le verrons pas ici-bas. Nous le verrons dans le ciel. Ce que nous cherchons, ce n'est pas la prospérité de notre Église, mais que l'amour de Dieu puisse transformer la vie des Thiernois et des Sarraisiens, afin qu'un jour nous puissions voir tous ensemble dans le royaume de Dieu la pleine accomplissement de sa promesse. Prions. Seigneur, je te rends grâce pour cette Église. Je te rends grâce pour chaque personne qui constitue cette Église. Que ton Esprit Saint descende sur nous, qu'il illumine nos cœurs et nos pensées. Montre-nous, Seigneur, le chemin que nous devons prendre, ou la posture que nous devons prendre en attendant la pleine réalisation de ta promesse. Rends-nous toujours plus humbles devant toi. Rends-nous à l'écoute de ta parole. Et surtout, Seigneur, aide-nous à ne jamais baisser les bras. Encourage-nous chaque jour de notre vie. Amen. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais je vous invite à chanter dans l'Arc-en-Ciel 301, Aube nouvelle.